Actu SF, les podcasts.
Alors, donc pendant une petite heure, on va essayer de parler d'écriture et science. C'est le titre qui m'a été donné. Alors, je sais pas si tout le monde me connaît, non, je pense pas. Alors, je vous dis ce qui je suis un peu. Je préfère que quelqu'un d'autre le fasse, mais je vais le faire moi-même. Donc, écriture et science, pourquoi moi ? Parce que je suis chercheur au CNRS. Je travaille sur cette grosse machine qui est à Genève, qui s'appelle le LHC, je ne sais pas si vous connaissez. On fait de la physique des particules, donc j'en dirai peut-être un peu plus si ça vous intéresse. Donc, on s'intéresse à l'infiniment petit, à découvrir la structure intime de la matière, les particules élémentaires, les interactions fondamentales, les choses comme ça. Donc, ça, c'est en gros ce qui me fait vivre. Qui m'anime aussi, hein, mais c'est ce qui fait vivre. Et à côté de ça, je suis auteur de science-fiction, donc j'ai écrit deux romans qui sont publiés, qui s'appellent Thinking Eternity et Eternity Incorporated, plusieurs nouvelles, et puis comme je ne tiens pas en place, j'ai été tâté dans pas mal de médias. J'ai travaillé sur un projet de film, donc scénariser des films. En ce moment, je travaille beaucoup sur du jeu vidéo, j'essaie de vulgariser la science par le jeu vidéo. J'ai un gros projet là-dessus. Et puis j'ai aussi écrit dirigé pas mal de bouquins collectifs, dans lesquels il y en a d'ailleurs un qui est à la librairie, là, qui s'appelle Un an dans les airs, qui parle de Jules Verne, dans lesquels, avec un illustrateur, qui en général est Nicolas Fructus, on raconte une grande histoire, on pose un univers et on raconte une histoire. Et on se met à plusieurs auteurs pour épauler Nicolas. Donc j'ai fait plein de choses comme ça un peu variées. Je tiens pas en place. Et donc je peux pas faire autrement que de donc être à la fois scientifique, travailler dans un truc comme le CERN, et puis écrire. Et on me pose très très souvent la question, je pense que c'est ça qui peut-être vous intéresse, de est-ce qu'il y a un lien entre les deux. Donc on va essayer d'aborder un peu cette question-là sous plein d'angles différents. Vous n'êtes pas très nombreux. Si vous préférez qu'on passe en mode discussion, ça m'arrange, ça me dérange pas. Enfin, sinon, je peux vous dérouler mon truc.
Ça vous arrange ou ça vous dérange pas ?
Les deux, mon général. Je peux vous raconter des choses, hein, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Je préfère vraiment qu'on discute. Vous n'êtes vraiment pas nombreux, on est en français, c'est tranquille. Donc, n'hésitez pas. Donc, déjà, là, il y a quelqu'un qui a une question ?
Je
vous vois. Quelqu'un a une question comme ça ?
Allez, on
commence. On commence ? Ok.
Oui,
ouais, bien sûr. Non, mais. Et donc. Alors, au CERN, qu'est-ce que je fais au CERN ? Donc, au CERN, on. Salut Pierre.
Salut.
Ça va ?
Ça va.
Est-ce que tu peux... Pour l'instant, il préfère que je parle français, donc si tu veux, je parle anglais.
Non, si vous préférez.
Non, non, j'ai fait le sondage, on est en français.
C'est bien. Je viens juste pour te tenter, mais j'ai déjà bu dedans.
J'en ai déjà fait un, voire deux.
Mais si tu veux, pas.
Donc au CERN, alors qu'est-ce qu'on fait au CERN ? Qu'est-ce que moi je fais au CERN ? Alors d'abord, je le fais pas tout seul. Un des points importants qu'il faut avoir en tête quand on parle du CERN et de ses grandes aventures scientifiques, c'est que c'est des aventures collectives. On fait jamais la science tout seul à ce niveau-là, en fait. Et donc dans l'expérience sur laquelle je travaille, on est par exemple 3000 de plein de pays différents. On travaille ensemble sur une énorme machine qui fait 20 mètres de haut. Pèse pas mal de tonnes et on vient de plein de pays différents. On se met ensemble au CERN pour construire cette machine et l'exploiter ensemble. Donc ça, c'est un peu pour donner le background. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait des collisions de particules à très très haute énergie. On envoie des particules les unes sur les autres à très très haute énergie et on regarde ce qui sort au CERN. Et bon, plus l'énergie est haute, plus on voit des choses qui n'ont pas encore été vues aujourd'hui. Donc on repousse les frontières de la connaissance dans ce qu'on appelle la frontière en énergie. Et puis vous avez peut-être vu, donc en 2012, on a découvert le boson de Higgs, qui est la dernière particule élémentaire du modèle standard, qui est la dernière brique élémentaire qui manquait, qui était prédite, mais qui manquait, qu'on n'avait pas observé, et qui ferme un peu le modèle standard. Donc ça, c'est juste un aspect. Moi, je ne travaille pas sur cet aspect-là, même si, comme on travaille tous ensemble, j'ai en fait signé les articles de la découverte du boson de Higgs. Moi, je travaille sur un autre aspect, qui est de faire se rentrer en collision des noyaux, plus des particules élémentaires, mais des protons et des neutrons qui sont ensemble dans des noyaux, des gros noyaux. On les fait se rencontrer ensemble et on espère ainsi recréer l'état dans lequel était l'univers dans les premières microsecondes avant le Big Bang. Et ça, c'est un des trucs qui est assez commun dans tout ce qu'on fait dans notre métier, c'est qu'on souvent l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on a des observations de l'univers, on a ce scénario de Big Bang qui dit que tout remonte, enfin que tout laisse à penser que l'univers, enfin c'est même prouvé, on voit que l'univers est en expansion, donc tout laisse à penser qu'il provient d'une source singulière, infiniment petite, infiniment dense, infiniment chaude, infiniment tout ce que vous voulez. Et donc quand on remonte ce temps et qu'on arrive à ces époques-là, ben nécessairement on n'existe plus, les tables n'existent plus, la matière n'existe plus, tout n'est que particules élémentaires qui interagissent ensemble. Et donc ça rejoint un peu ce qu'on fait en regardant les processus élémentaires, les collisionneurs de particules. Donc ça c'est en gros pour vous dire en très gros ce qu'on fait au CERN. Infiniment petit, qui rejoint un petit peu l'aventure de l'infiniment grand. Alors dans les choses que je peux vous raconter qui relient un peu donc l'écriture et la science, c'est qu'avec Mathias Echenet de La Volte, qui est dans le coin d'ailleurs, mais qui allait à une autre conférence parce qu'il sait déjà ce que je vais raconter, on a organisé au début de l'année là, la visite de 12 écrivains de science-fiction au CERN, et on avait dans l'idée de se faire rencontrer ces deux populations qui se connaissent très peu en fait, même si... Ah ben ça le voilà. Je viens de dire que tu allais à une autre
conférence
parce que tu savais
déjà
ce que j'avais à
raconter. Moi, je
vais
là, non ?
Oui. Donc, on est avec Mathias, ici présent. On a emmené 12 écrivains de science-fiction au CERN, voir ces grandes machines qu'ils connaissaient déjà, hein, qui les faisaient un petit peu fantasmer. Donc, j'ai discuté avec François Rouillet, qui est là aussi, qui est un des 12 auteurs qui était avec nous, et qui me redisait que lui, ce qui l'a fasciné, c'est la beauté de ces machines, qui pour moi sont pas très belles. Hein. C'est des vis bécanes, on en a chié pour le faire. Mais pour lui, avec son œil de décrivain de SF, c'est une cathédrale. Alors, c'est une cathédrale à plusieurs titres. D'abord parce que c'est grand, et c'est effectivement un bel édifice grand. Caverne, c'est un côté comme ça, sépulcre, un peu très prenant. Et puis aussi parce que c'est une entreprise humaine longue, ça prend vachement de temps de faire une machine comme ça. Donc c'est comme un peu comme les cathédrales justement. Les gens qui ont conçu les cathédrales, souvent ils les ont pas vues. Il y a quelqu'un qui fait une cathédrale là, et puis 100 ans après, elle n'y est pas encore. Elle vient tout juste d'être terminée. Et ben les grosses machines de physique des particules aujourd'hui, et pas que de physique des particules, il y a d'autres domaines de science dans lesquels c'est vrai. C'est un peu ça. Et dans notre monde aujourd'hui où tout va à toute vitesse, où les projets des entreprises sont de plus en plus courts, quand on lance un iPhone, il faut qu'il soit rentable au bout d'une semaine, sinon c'est mort. Et ben, il y a des gens quand même qui, dans la quête de la connaissance, construisent comme ça des projets de très long terme qui emmènent beaucoup de gens avec eux, puis qui n'a pas un retour sur investissement immédiat. Et même le retour sur investissement, il est, on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas encore à quoi ça va servir tout ça. À très long terme. Donc, pour revenir à cette visite, donc, 12 écrivains de science-fiction qui se promènent au CERN, ils sont absolument fascinés. Donc, il y en a qui disent ce que je viens de vous dire, hein, ils parlent de cathédrales, de pyramides, de choses comme ça. Et puis, en face, des chercheurs, et moi, un des trucs qui m'a le plus marqué dans cette visite, c'est quand un chercheur, donc, qui est arrivé vers la fin de la visite, a dit à nos auteurs de science-fiction, écoutez, moi, ça fait 30 ans que je travaille, 30 ans, j'ai dédié ma vie professionnelle à la découverte du boson de Higgs. J'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Et c'est vrai. Et ça, non, mais ça, c'est. Je vois qu'il sourit. C'est important, ça. C'est que. Et puis l'histoire de la science, elle est pavée de découvertes comme ça. Les vraies découvertes de rupture, les choses qui ont vraiment changé les choses, en général, quand elles ont été découvertes, les gens n'avaient aucune idée de ce à quoi ça pouvait servir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a une légende urbaine qui veut que Hertz, le gars qui a un peu inventé les ondes électromagnétiques, hein, a dit que quand il a inventé ça, qu'il ne voyait pas à quoi ça allait servir. La télé, la radio, le téléphone portable. Là, il y a des ondes électromagnétiques partout qui nous traversent. Le téléphone portable, je ne sais pas s'il passe ici. Mais on vit dans un monde d'ondes électromagnétiques, on utilise les ondes électromagnétiques tous les jours pour faire plein de choses, le téléphone, tout quoi. Et néanmoins, quand la première fois quelqu'un a compris le concept d'ondes électromagnétiques, il n'était pas tout à fait tout seul, Hertz, mais au moins l'un d'entre eux, à ce moment-là, a dit « je ne sais pas à quoi ça va servir ». Il y en a d'autres, un exemple comme ça, la science elle est pavée d'exemples comme ça, Einstein en est un bon exemple. Quand Einstein découvre la relativité restreinte et générale, qui sont des découvertes d'abord mathématiques pour expliquer un problème concret, hein, mais très, très théorique, très conceptuel, très dérangeante, très contre-intuitif, eh ben, il ne sait pas évidemment qu'à notre époque, dans nos téléphones portables, pour le GPS, il y a des corrections de relativité. En fait. Donc même dans notre poche, aujourd'hui, on a des objets qui utilisent la science d'Einstein. Quand lui, il l'a découvert il y a un peu plus de 100 ans, il n'a aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Et donc c'est pareil, par exemple, pour le boson de Higgs. Le chercheur aujourd'hui qui découvre le boson de Higgs, donc ce chercheur-là qui nous a rejoint à la fin de la visite, qui est un type important, hein, c'est un chercheur du CERN, il n'y en a pas beaucoup, des chercheurs qui sont physiquement au CERN, ils sont très bien payés. Oui, ils sont très bien payés pour des chercheurs. Ça reste quand même des chercheurs. Mais ils sont suisses, voilà, enfin, ils sont fonctionnaires internationaux, ils ne payent pas trop d'impôts, tout ça. Ils ont des belles voitures, mais peu importe l'argent, parce qu'en général, c'est pas ça qui les anime, justement. Donc ce chercheur, il, à la fin de la visite, il dit, voilà, moi, je sais pas à quoi ça sert, et j'ai besoin que vous, auteur de SF, invente à quoi ça sert. Et moi, qui suis un peu les deux, c'est quelque chose que j'aurais jamais osé dire, en fait. Et lui, il le dit, quoi. Il dit, voilà, alors c'est un grand fan de SF, il a tout lu de SF anglophone, il a rien lu de francophone. Mais voilà, il ose dire ça, et c'est important, ça. Et donc, quand moi on me demande, hein, si mon métier de scientifique m'influence quand j'écris, ma première réponse, c'est ça va pas, non. C'est non, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand on est relativement pointu dans un domaine scientifique précis, je pense que c'est très, très, très difficile d'imaginer des choses, donc vraiment dans l'ordre de l'imaginaire, qui utilise cette chose-là. Donc moi, quand dans mes bouquins, il n'y a pas du tout de physique des particules. C'est hors de question. Et justement, toujours dans cette visite-là, on était plusieurs à faire ce constat-là. Sylvie Lenné, qui est prof d'informatique, si je ne me trompe pas, c'est ça. Enfin, elle a fait pas mal
d'informations
et tout ça. Elle disait, moi, je la connais plus par ce qu'elle écrit que par la science qu'elle connaît. Elle disait la même chose. Elle disait que pour elle, c'était hors de question qu'elle écrive sur l'intelligence artificielle. Parce qu'elle voyait les limites, elle était pleine de barrières infranchissables qu'en tant que scientifique, elle ne pouvait pas franchir. Et moi, c'est pareil. Moi, j'écris sur l'intelligence artificielle. Précisément parce que j'y comprends rien d'un point de vue scientifique. J'ai des idées. Alors, le background scientifique aide sûrement à avoir un vague. Évidemment, c'est les mêmes personnes qui... Et pour Sylvie et pour moi, c'est les mêmes personnes qui écrivent. Mais ça doit aider. Mais je pense que c'est très important, justement, de séparer les deux choses dans une certaine mesure. C'est-à-dire de... Bon, il y a des auteurs de hard science, hein, qui sont scientifiques, mais en fait, ils étaient scientifiques. Il y en a qui ont des thèses Brin, il y a une thèse d'astrophysique. David Brin, il a une thèse d'astrophysique, mais il a arrêté, en fait. Il a arrêté, il est parti écrire. Il comprend, mais je ne pense pas qu'il soit extrêmement pointu en astrophysique. Sinon, je pense que ça érigerait aussi des barrières. Après, il y a des exceptions sûrement, mais peut-être que c'est une exception. Donc voilà un peu sur la communication entre les deux. Pour moi, c'est en fait deux choses assez distinctes. Vous avez des questions? N'hésitez pas. On est peu nombreux, on peut discuter, c'est pas plus mal. Non? Si vous en avez pas, non? Si vous en avez pas, on peut aller boire une bière. Non, non. Si vous en avez pas, je peux éventuellement vous entraîner dans un périple qui serait de se retourner et puis d'imaginer, de voir donc fiction et science, qui a précédé qui. Et dans l'histoire de la fiction et de la science, on voit qu'il y a des choses qui ont été inventées par les auteurs de science-fiction avant qu'ils deviennent des objets scientifiques ou technologiques. D'ailleurs, là, il faut peut-être faire un peu la distinction entre les deux parfois. Et puis, il y a des choses où c'est l'inverse. Et puis, il y a des choses qui marchent très très bien dans les deux et qui ne marchent pas du tout dans les deux. Ça vous intéresse de se promener dans cette matrice-là? Alors, je vais vous poser la question. Donc, est-ce que vous connaissez des objets, des objets ou des événements ou des choses comme ça qui ont évidemment été là en science-fiction, en fiction, avant d'être là dans le monde scientifique?
Téléphone portable
en Star Trek, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis d'accord avec toi. suis d'accord avec toi. On reviendra sur un truc sur le téléphone portable. Effectivement, le téléphone portable dans Star Trek. Alors, si on va sur Star Trek, il y a plein de choses dans Star Trek. qui, contrairement à Star Wars, qui sont dans Star Trek et, qu'on, et qui anticipent. Ouais.
Après, le.
Le. Dans Star Trek ? Non.
Alors, c'est plus dans. Ouais, entre autres. Et qu'on retrouve maintenant sur les navires de.
Ouais. Des genres de rayons, ouais, de rayons électromagnétiques. Le taser, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose, c'est à courte portée, mais le taser, ça a été complètement inventé. On en voit dans la SF, et en particulier dans Star Trek aussi, avant qu'on le voit dans les rues des villes mal fermées. Vous avez d'autres exemples ?
La capsule Apollo, avec le film de Méliès.
Ouais.
Et
Ah ouais. Et ça va même plus loin que ça. Le voyage dans la Lune, c'est le truc. C'est le truc que les gens de l'imaginaire avaient imaginé de plein de façons différentes. Bien avant que ça devienne une réalité. Et sans doute, toutes les images de ce voyage dans la Lune a contribué au fait qu'on y aille. En fait. Rien que le fait qu'on nous ravage depuis. C'est même bien antérieur à Méliès. Qu'on nous rabâche le fait qu'on puisse aller dans la Lune, et ben ça nous a fait qu'on y est allé. Alors, le voyage dans la Lune, il y a celui de Lucien de Samosat, au 1er siècle de notre ère, déjà. Il y a celui de Cyrano de Bergerac, pas le personnage, mais le vrai Cyrano de Bergerac, qui écrit Un voyage dans la Lune aussi au 17e siècle. Il y a celui de Jules Verne, et il y a celui d'Hergé, exactement.
Il y a en portugais aussi.
Oui, il y en a d'autres.
Il y en a plein, en fait.
Un classique, j'ai découvert ça, classique portugais, du 19e siècle, je crois.
Ouais.
Alors, c'est par le rêve, il y a peu importe.
Bah, de toute façon, il y a un rêve. Truc.
Il y a eu aussi une nouvelle où une personne part dans la Lune.
C'est vrai, je l'ai raté celle-là. Ouais, mais je pense que. Enfin, ils ont. Wells l'a fait aussi. Hein.
Ah, allô.
Ouais. Et donc, tu.
Et en fusée, les premières, ça c'est aussi. À part le Méliès, c'est ouais. Aussi l'IMA, c'est la.
Femme
dans la Lune,
ouais. Il y en a. Ouais, il y a Méliès, quoi. Ouais, non, enfin, il y a Jules Verne Méliès, quoi. Donc,
mais là, c'est véritablement diffusé.
C'est pas un canon. Dans Méliès et dans Jules Verne, c'est un canon. Donc, technologie bien maîtrisée, bien à la mode à l'époque, très à la mode à l'époque. Mais ouais, le voyage dans la Lune, c'est génial. Et Hergé, c'est génial. Quand on réfléchit, c'est 53, Hergé, c'est ça, je crois. Et c'est 69, le. Et donc dans RG, on voit ce clair de terre, hein, c'est-à-dire qu'ils sont sur la Lune et ils voient le clair de terre. Et se remettre à l'époque, personne n'avait vu cette image-là. En fait. Elle était imaginée par RG et puis sans doute par d'autres à la même époque. Et puis quand on regarde les premières images de clair de terre des missions Apollo, c'est les mêmes. Quoi. Enfin, donc ça, je pense, c'est un bel exemple d'impulsion. C'est-à-dire que les gens de l'imaginaire, au sens large, se sont acharnés sur cette idée, il faut aller sur la Lune, quoi. Et puis à un moment, quand les politiques ont eu un intérêt pour le faire, un intérêt de guerre froide, c'est clair, un déclencheur, ils sont banco, on y va.
Est-ce que c'est simplement une inspiration ou une impulsion, ou est-ce que c'est aussi une contribution plus factuelle que certaines choses ont été recherchées dans un angle qui correspondait à ce qui a été imaginé?
C'est une question que je me pose souvent et je n'ai pas la réponse. Je pense que ça mérite, et peut-être des gens l'ont fait, hein, ça mérite des études approfondies en fait, sur est-ce que les gens de la NASA se sont vraiment inspirés concrètement de choses qu'ils ont trouvées ici ou là dans la littérature de l'imaginaire ou ailleurs, enfin dans l'imaginaire en général, ou pas. Moi j'ai tendance à dire non, mais quand je dis ça, je sens que c'est la partie scientifique en moi qui parle, et je ne suis pas sûr de mon coup.
Parce que je sais que pour certains éléments de Star Trek, de façon spécifique, ouais. Que ça a été confirmé par certains scientifiques qui ont participé à de grandes découvertes, qu'effectivement, ils avaient vu Star Trek et ils se sont dit « Ah, mais ça, c'est cool, je veux faire pareil.
Ouais. »
Je trouve ça magique.
c'est très difficile. En plus, je pense que c'est assez diffus, quoi. Moi, je me souviens d'une autre anecdote sur, qui résonne un peu avec ça. Sur, aux Utopiales, je modérais une table ronde sur est-ce que la nature a... est-ce que la nature a inspiré des hommes pour faire des objets technologiques? et je lance mes joyeux intervenants sur l'avion, quoi. Parce que voilà, si on essaie de copier un oiseau, ben on ne vole pas. C'est pas comme ça que l'homme a commencé à voler. Léonard de Vinci n'y arrivait pas. Ça, c'est pour faire nos premiers avions, ils ont des ailes fixes. Ils n'ont pas des ailes.
Mais c'est bien comme ça qu'on a commencé à essayer.
Exactement. Et donc j'avais un biologiste, je crois, de renom qui était là et qui défendait ce point de vue. Comment on dit Archimotique, non, comment on dit soutien mordicus, non, si j'ai perdu une expression, c'est pas grave. Ouais, fanatiquement, merci. Et donc il défendait ce point de vue à fond, et puis j'avais Paolo Bacigalupi à côté de moi. Et puis il commence à prendre la parole, et puis je vois le biologiste qui dit ouais, l'auteur de science-fiction, il va dire n'importe quoi, il a rien compris au film et tout. Et Paolo, il disait essentiellement ce que tu dis, c'est-à-dire il disait mais vous vous rendez pas compte que si l'homme n'a ne serait-ce que l'idée de voler, c'est bien parce qu'il y a des oiseaux. Et donc en fait, même si techniquement à la fin, on n'a pas utilisé la technologie des oiseaux, on utilise la science des oiseaux, c'est-à-dire qu'ils savent voler, c'est leur science, ils ont cette capacité-là. Et c'est bien parce qu'on les voit voler que nous, on se dit, on va y aller. Donc je pense que c'est très très difficile de savoir dans quelle mesure on s'inspire. Je pense qu'on s'inspire toujours les uns des autres, évidemment, mais est-ce que c'est le degré un mode opératoire concret qui permet vraiment de faire une avancée technologique, ou juste une idée qui donne l'idée, plutôt un fait qui donne l'idée, je pense que c'est difficile, même si ça dépend.
Dans son idée, on parle.
Voilà, exactement.
Ceci dit, il y a une ironie dans l'histoire, parce qu'on associe oiseau et plume nécessaire pour voler. Et récemment, il y a des découvertes archéologiques qui semblent montrer que la plume est une invention non pas pour voler, mais bien antérieure.
Ça me dit quelque chose, je pense que j'ai lu un truc là-dessus. Mais oui, alors ça c'est l'outil qui sert à autre chose, quoi. C'est l'outil qui sert à autre chose. C'est-à-dire que tu crées un outil pour faire un truc et puis tu te rends compte après que tiens, ça peut servir à autre chose. Découverte accidentelle. Il y en a pas mal en physique aussi. Alors si on continue à remplir un peu nos histoires de fiction qui précède la réalité, enfin la science en tout cas. Donc on a parlé de marcher sur la Lune. L'autre exemple énorme, c'est la télévision. La télévision dans Robida, dans Jules Verne, dans Wells, il y a des télévisions bien avant, dans Robida en particulier, bien avant qu'on ait découvert le tube cathodique. Le tube cathodique qui fera les premières télévisions que vous avez connues tous, je pense. Quand j'enseigne ça à des jeunes, maintenant je fais très attention parce que. Connaissent pas. Donc le tube cathodique c'est 1890 en gros. Et Robida c'est pareil, c'est les mêmes années quoi. C'est même un peu avant. Et donc dans le château des Carpates ou dans le 20e siècle de Robida, il y a des choses qui ressemblent très énormément à la télévision en fait. Et ça c'est pareil, ça doit irriguer l'imaginaire des gens pour dire un jour on réussira à faire un truc comme ça. La première télé, j'ai pris des notes là avant de venir, c'est 1926 la première télé, et en 1937, en France, il y avait une émission quotidienne d'une heure, et il y avait 100 personnes, 100 foyers qui la recevaient. Alors que Jules Verne et Robida et d'autres parlaient de la télé 30 ans avant. Vous avez d'autres ?
Internet.
Alors Internet, pour moi, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là, ça rentre dans une autre catégorie.
Plutôt toutes les implications d'Internet, les réseaux sociaux.
Ouais, là je te rejoins peut-être.
Effectivement, Internet découverte le lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine.
Ouais. C'est pas tout à fait le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus ça. Alors Internet. Donc Internet, pour moi, on change de catégorie. Pour moi, Internet, c'est vraiment un truc qui a été découvert par les scientifiques. C'est un truc scientifique, enfin technologique, pour être plus précis, et qui avait été très peu anticipé par les auteurs de l'imaginaire. Tu peux toujours trouver des exceptions. Mais quand on parle par exemple de Gibson, les gens ne sont pas au courant. Mais Gibson, c'est bien après l'invention d'Internet. Internet est déjà inventé quand Gibson écrit le roman ancien. C'est pas popularisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous Internet, mais les scientifiques avaient déjà Internet quand Gibson écrit le roman ancien. Donc, pour moi, l'Internet, c'est justement Internet et l'Internet mobile. Donc, c'est en ça que le téléphone portable échappe un peu à la règle. C'est vraiment des choses qui... C'est des ruptures technologiques, vraiment, pour employer un terme à la mode disruptive. Quoi. C'est des grosses ruptures qu'on n'a pas vraiment vu venir.
Si,
Après, on peut toujours trouver des exceptions quand on cherche. Et c'est lié à plusieurs choses. C'est lié, un des aspects, c'est plus pour le téléphone mobile, c'est lié à la miniaturisation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les auteurs de SF imaginaient les ordinateurs grossir, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont grossi pendant quelques années, puis après, jusqu'à ça. Ça, c'est plus puissant que les ordinateurs de table. Elles vont bien grandir. Infiniment plus puissant. Et donc ça, c'est un truc qui a, je pense, en grande partie échappé aux gens qui ont essayé d'imaginer les choses. On peut trouver de petites exceptions. Autre chose qui...
Une version particulière de l'immortalité. Voilà. Qui s'appelle le clonage, ouais. Qui est disponible pour une information encore assez lourde, mais il suffit d'aller en fait à l'étude et en fait clonner son petit chien.
Le clonage, je pense que le... Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Hein. Les conséquences du clonage ont été pas mal explorées par les auteurs de l'imaginaire. Sous toutes ses formes, clonage humain, pas humain, tout ce qu'on veut, réserve d'organes, enfin, il y a plein de d'hypothèses qui sont explorées, bien avant que le clonage devienne opérant. Comme tu dis, on peut vaguement cloner des animaux, ils n'ont pas le même âge, les deux clones n'ont pas le même âge, donc souvent dans les scénarios de l'imaginaire, parce que c'est intéressant, on aimerait que les deux clones aient le même âge, c'est plus rigolo. Narrativement, c'est beaucoup plus intéressant. Donc je pense que oui, je suis d'accord avec toi, le clonage a été balayé par la fiction, mais est-ce que ça deviendra vraiment... est-ce que scientifiquement, ça va vraiment percer? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on aille très loin avec le clonage, aussi loin que les auteurs de SF.
Éthique.
Ouais.
Mais néanmoins, à l'heure actuelle, donc en particulier, parce que pour ça, le clonage humain avec les applications thérapeutiques sur certains organes.
Oui, ça, j'y crois un peu.
Mais en ce qui concerne le clonage animal, comme moyen de faire survivre un animal que l'on a aimé, le faire renaître une seconde fois,
je pense que pour le clonage, on est entre les deux, en fait. C'est en train de basculer. Il y a plein d'autres exemples qui sont en train de basculer aujourd'hui, je pense. Intelligence artificielle, robot.
Les limitations éthiques, je pense que le clonage, je pense que la législation, la fiction qui a précédé la découverte scientifique a aussi donné lieu en part à la législation de la version pour l'intelligence artificielle. Il y avait tellement de fiction spéculative qui nous a prévenus des failles possibles. Ça a ralenti, en fait, la science qui
la suit. Enfin, ça ralentit, je ne sais pas, mais ça a averti, en tout cas. Souvent, les auteurs de science-fiction, au sens très large, servent un peu de donneurs d'alerte sur ces questions-là. Quoi. C'est-à-dire qu'ils explorent les conséquences de trucs qui sont en train d'arriver, de poindre. Donc, comme je disais, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont en train de passer de ma première catégorie, enfin plutôt de ma deuxième catégorie, à laquelle on va arriver, à ma première. Ma première, c'est l'imaginaire à explorer les conséquences d'une découverte scientifique avant que la découverte scientifique soit là. Et ma deuxième catégorie, à laquelle on peut venir maintenant si vous voulez, c'est plutôt celle où les choses qui ont été utilisées en fiction énormément, mais qui en fait n'ont pas de réalité scientifique. D'application technologique pour l'instant. Vous en voyez des comme ça? Donc des choses que la fiction a utilisées énormément.
Le voyage de l'éclair.
Bon, même pas. Je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est. On en est tellement loin que j'irais même pas jusque-là. On n'est pas allé sur Mars, quoi. Alors que dans la SF, on est allé partout. On est allé plus. Alors pour aller encore plus loin, on est allé plus vite que la vitesse de la lumière, c'est clair. Mais même la Lune, donc on a vu, la Lune, c'est un truc très. C'est l'inverse, la Lune. Dans la fiction, on va très vite sur la Lune, machin, ça nourrit notre rêve, on va sur la Lune. Mais c'est tout. Et puis, c'est tout ça. Une partie des gens qui sont dans cette salle n'étaient pas nés quand on est allé sur la Lune et on n'est pas retourné et on n'est pas allé plus loin, nous humains. Alors c'est en train de peut-être d'évoluer un petit peu. Là. On reparle d'aller sur Mars. Mais le voyage spatial, c'est clairement un truc qui est hyper riche narrativement pour la SF. Des pages et des pages et des pages, mais qui technologiquement est quasiment en attente pour l'instant. Encore pire, le voyage temporel. Le voyage temporel, c'est le truc qui scientifiquement est extrêmement improbable. Hein, tous les gens qui connaissent bien les lois fondamentales de la matière pensent que c'est juste pas possible. Juste pas possible du tout, quoi.
Ça
et pourtant.
Ça fait un siècle qu'on utilise.
Peut-être même plus d'ailleurs, je ne sais pas.
On arrive sur les ondes sonores, on arrive à les retracer à l'envers.
Ouais, mais c'est pas remonter dans le temps en vrai, quoi. Tu peux pas utiliser cette technologie pour te faire toi remonter dans le temps. Donc le voyage temporel, c'est le truc évidemment qui. Et alors, là-dessus, on a écrit des pages et des pages, et puis on a fait des films et des films.
Et mon parallèle d'ailleurs.
Ouais, toi, t'as lu mes fiches dans le train, non ?
Je faisais autre chose.
Ouais, ouais, les mondes parallèles, exactement. Donc, pareil, les mondes parallèles. Donc, scientifiquement, on a des
hypothèses. Ah, mathématiquement, apparemment, on a des démonstrations de choses comme ça. On se balade pas dans les mondes pas privés.
Alors, c'est marrant, les mondes parallèles, parce que dans la SF, on a envie de mondes parallèles, évidemment, pour y aller. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et dans la science, on a envie de mondes parallèles pour surtout pas y aller. Aujourd'hui, dans la science, il y a plusieurs endroits où il y a des mondes parallèles qui apparaissent, mais dans ma science, il y a un endroit où il y a des mondes parallèles qui apparaissent. C'est cette idée, on mesure des choses, en particulier la masse du boson de Higgs, mais plein d'autres choses, qui sont précises. C'est des nombres qui sont assez précis, et s'ils valaient pas exactement cette valeur-là, on serait juste pas là. On serait pas là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a. Alors, on peut se réfugier dans n'importe quel type d'hypothèse pour justifier ça, mais on a l'impression que le nombre, il est choisi. Il a été choisi parmi plein d'autres nombres, pile poil, pour qu'on soit là. Et donc on peut se réfugier derrière une hypothèse divine si on en a envie, ce que les scientifiques ont rarement envie de faire. Et une autre hypothèse, c'est de se dire « Ah non, non, mais c'est très simple en fait, c'est juste que tous les mondes existent avec toutes les valeurs possibles du paramètre, et juste nous, on est dans le monde parce qu'on est là. Enfin, on peut pas être dans un autre, on est juste dans celui-là. Mais quand tu développes une théorie comme ça, précisément, les autres mondes, tu n'y as pas accès. » Précisément, ils sont parallèles mais déconnectés. Donc c'est marrant ça parce qu'effectivement les mondes parallèles sont pas la même approche pour quelqu'un qui fait de l'imaginaire et quelqu'un qui fait de la science. Quelqu'un qui fait de la science, il met le monde parallèle, ça l'arrange parce qu'il les met à part et puis il les oublie, c'est bon, ça justifie un truc. Alors que l'auteur de SF, il veut y aller dans le monde parallèle, sinon c'est pas drôle, il veut communiquer d'une façon ou d'une autre avec le monde parallèle. Ça veut dire un peu comme Interstellar maintenant, en fait, c'est dans le temps. La téléportation. La téléportation, le truc génial dans la fantasy, dans la science-fiction, c'est trop fun de se téléporter, c'est riche en termes de narration, et c'est très probablement pas demain la veille. On parle de téléportation quantique, hein, mais la téléportation quantique, avant que vous puissiez téléporter un être humain, c'est rigoureusement impossible. Et un dernier exemple, la voiture volante, qui est peut-être aussi en train de passer de l'autre côté. La voiture volante, c'est le truc, il y en a partout des voitures volantes. Il y en a dans Jules Verne, il y en a dans plein de films, le cinquième élément, même dans Retour vers le futur, enfin, vous en connaissez plein des voitures volantes en fait. Et ben, c'est pas facile de faire des voitures volantes. Et aujourd'hui, on commence vaguement à arriver à faire des petits véhicules autonomes qui se débrouillent comme ça. Ça va poser des problèmes, dès qu'il y aura un accident, on va arrêter. Ça a posé des problèmes éthiques pour le coup, de trafic aérien, de choses comme ça. Donc la techno, elle arrive tout juste à faire des choses qui n'ont pas fait. Il y a 2 ans, là, il y avait un type avec une sorte de bicyclette avec des rotors, j'aimais bien ça. C'est ce qui me paraissait le plus proche d'arriver vers une voiture qui flotte, enfin, qui vole pas très haut, mais qui en tout cas qui flotte. Mais voilà, le jour où un type qui utilise ça se tue, on arrête tout de suite la production, alors qu'il y a plus de gens qui se tuent en voiture. Pas volante.
Ça dépend peut-être aussi si tu es en Chine.
Pardon.
Si tu es en chimie,
oui, c'est vrai.
Les modules antigravité aussi.
Ouais, l'antigravité aussi, bien sûr.
Ça, c'est génial.
Ouais. Et l'antigravité, alors, il y a peut-être des petites portes pour l'antigravité, mais elles sont petites. Mais c'est aussi pareil, très peu probable.
L'aimantation, c'est de l'antigravité.
Alors, oui, on arrive à faire flotter des choses avec les superconducteurs, ouais. Oui, on peut appeler ça. Alors, c'est pas de l'antigravité, mais ça, c'est pareil, quoi. Mais oui, c'est dans ce cas-là, ça devient un peu concret.
Et l'ascenseur spatial avec l'arc.
Ouais. Pareil, pas facile à faire. Pas facile à faire, à fabriquer. C'est lourd. Même si le fil est très fin, comme il est très long, c'est très lourd. Et donc voilà un peu quelques exemples. Alors, on peut glisser vers la troisième catégorie, donc on a déjà parlé un peu avec Internet, de choses qui pour nous sont arrivées scientifiquement avant sans que les gens qui l'imaginaient les aient imaginées et ou s'en soient emparés pour raconter des histoires. Donc Internet, pour moi, c'est un des meilleurs exemples. Parce que, alors peut-être pas Internet en général, mais Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, je pense que tout le monde a été dépassé par ce truc-là, en fait. Personne n'avait prévu qu'on aurait tous Internet dans nos poches, dans nos montres, bientôt dans notre tête, enfin, pas tout de suite. Mais le fait que, et c'est lié, donc, comme je disais tout à l'heure, à deux choses, enfin, à la miniaturisation, puis au réseau. Et d'autres choses comme ça qui n'ont pas été anticipées.
Et quand on découvre l'intelligence artificielle, la théorie de Quanta, c'était aussi anticipé.
Ouais. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc la mécanique quantique, quoi. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on en fait quelque chose en science-fiction, ça ?
Il y a l'ordinateur quantique.
Ouais, mais ça c'est pareil, c'est la science, ça. Mais il y a peu de relais. Alors ça, pour moi, ça peut peut-être même rentrer dans ma quatrième catégorie. Toi, t'es vachement en avance sur toutes les catégories. Tu donnes un exemple de la catégorie. On en discute un peu. Les quantas, alors la mécanique quantique, effectivement, c'est un truc, c'est une découverte scientifique, ça pouvait pas être imaginé parce que c'est tellement contre-intuitif. Vous connaissez tous la mécanique quantique ? Très bien. Ouais, vous êtes des pros. Non, mais dans la mécanique quantique, il y a des choses complètement contre-intuitives, par exemple. Une particule élémentaire, un électron, n'est pas à un endroit précis. C'est fini, il faut arrêter de penser comme ça. Alors que dans notre hypothèse, dans notre intuition à nous de tous les jours, on sait bien où sont les gens. Quand toi, je ne savais pas trop tout à l'heure, c'est dans quel amphi t'étais. T'es quantique, en fait. Mais on, les gens sont à un endroit et pas à un autre. Le chat de Schrödinger, vous connaissez, il est ni mort ni vivant. Donc voilà. Donc la mécanique quantique, c'est complètement. On ne pouvait pas l'imaginer. Donc effectivement, ça peut être qu'une découverte scientifique au départ. Après, est-ce qu'il y a des auteurs qui se sont emparés de ce truc-là contre-intuitif pour en faire des belles histoires ? Eh bien...
Après que ce soit inventé.
Je pense qu'il y a des choses, hein, je n'ai pas qui me viennent comme ça.
Il y en a, mais c'est assez peu parce que je pense que la plupart de mes maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas ça.
Alors... Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est même, pour moi, c'est pire que ça. C'est que même le lecteur comprend pas en fait ça. Même si quelqu'un commence à raconter une histoire de Quanta, est-ce que c'est intéressant ? Ben non, en fait, c'est pas intéressant parce que c'est pas intuitif. On rentre pas dedans. Donc pour moi, ça rentre un peu dans ma quatrième catégorie, qui est la catégorie des trucs scientifiques qui servent à rien. Non, c'est pas vrai que ça sert à rien. La mécanique quantique, ça sert à ça. Il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur sans mécanique quantique, là, c'est clair. Donc ça, au contraire, technologiquement, ça a servi à énormément de choses, d'ordinateur, tout ça. Mais c'est pas facile de faire une intrigue quantique. Je pense qu'il y a des tentatives, c'est assez compliqué. Je pense que sûrement Egan a fait un truc avec ça.
Et l'implication quantique, c'est-à-dire, apparemment, il n'y a pas mal de récits de liaison à grande distance
qui
va au-delà des.
Donc ça c'est vrai, mais je suis pas sûr que ce soit. Alors, c'est utilisable dans des histoires qui sont assez simples et assez technologiques en fait. Qu'aujourd'hui la équation quantique, c'est en gros, ça crée un système de deux choses, c'est en général les particules élémentaires. Donc à un instant, au début elles sont ensemble et elles partent, chacune dans une direction. Et puis quand on modifie l'une, l'autre est instantanément modifié de l'autre côté. Et ça perturbait énormément Einstein. Parce qu'il ne pouvait pas admettre quelque chose passait à plus que la vitesse de la lumière entre les deux points. Donc Einstein refusait ça, c'est commençait à être vieux. Il refusait ça, alors qu'en fait c'est vrai. En fait ça se passe vraiment comme ça, ça a été mesuré, démontré, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Maintenant il se passe, il y a quelque chose qui passe entre les deux, mais ce quelque chose n'est pas de l'information qu'on peut utiliser. Je rentre un peu dans les détails, mais si pour faire simple, vous modifiez quelque chose ici, ça se modifie instantanément là, ben, pour être sûr que ça a eu lieu, il faut juste aller vérifier. Et donc en fait, c'est pas l'information que vous pouvez utiliser pour être sûr que ça a marché. Il faut que quelqu'un aille vérifier. autre façon de voir les choses. Alors, ça, c'est utilisé pour la cryptologie aujourd'hui. C'est l'application la plus intéressante de ça, c'est-à-dire d'utiliser un train. Donc on s'envoie un train particulier. Il y en a 4, 5, peu importe. Et donc, quand moi je mesure ça, Mathias il mesure l'inverse de son côté, parce que les systèmes sont intriqués. Et donc, si moi j'ai mesuré 1, 0, 1, 1, toi tu as mesuré l'inverse. Donc, on a tous les deux mesuré une clé de codage. Le gros avantage, c'est qu'on est sûr que personne va intercepter. Si quelqu'un l'intercepte, la mesure elle est faite à cet endroit-là et on ne reçoit pas, le train. Donc, ça permet d'avoir une clé de codage qu'on est sûr d'avoir tous les deux. Maintenant, ces clés de codage, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, si on veut en faire quelque chose, il faut qu'on se soit mis d'accord dans un café avant sur un code. Et donc, en fait, en vrai, il n'y a pas une vraie information utilisable concrètement qui peut passer plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ça peut rassurer un peu Einstein ou monsieur au fond de la salle. Mais voilà. Donc, et ça, je ne suis pas sûr que dans la littérature de l'imaginaire, il y a des gens qui utilisaient ça avant ça. Avant c'est sûr, parce que... mais même après en fait. Enfin si, ça je pense qu'on doit pouvoir le trouver dans des polars.
Dans le suicide, c'est pas ça, parce que moi je suis en science, c'est pas ça que dans le suicide,
avec ces
électrons là.
Je l'ai pas lu.
En fait,
c'est... Mais sur ma ville, on en parlait dans le train.
C'est qu'il prend un bon bouton,
ouais.
Il le déplie alors,
ouais.
Donc il met du code dedans.
Ouais.
Il arrive à les envoyer sur, donc il y en a qui restent sur la planète,
ouais.
Et d'autres qui vont sur Terre.
Bah ça sonne comme ça, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, effectivement. Ouais. Ok, donc ça rend plutôt, c'est pas dans la quatrième catégorie, c'est plutôt un truc, comme tu proposais, scientifique, pour lequel après on trouve des applications imaginaires. Il y en a d'autres, moi il y en a un qui me fasse. Bon, il y a le GPS par exemple. Le GPS qui est un pour les polars, c'est génial le GPS. Hein. Et ben, personne n'avait inventé le GPS avant qu'il soit inventé en fait. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'on aurait pu, quelqu'un, un auteur de SF un peu scientifique, aurait pu inventer le GPS avant l'heure. Le GPS, je pense que les premiers, c'est dans les années 80, 70, tu sais, quand même. Le GPS pour tous, c'est dans les années 2000. Mais le GPS militaire, je pense que c'est dans les années 80.
C'est même plus.
Et le GPS pour la navigation.
La triangulation, ouais. La triangulation, c'est un peu. Parce
qu'il y a quand même une multitude de traceurs qui sont pas très bien expliqués.
Ouais.
On peut retrouver avec des questions de GPS.
Et à moi, un autre qui me fascine encore plus, et je sais pas, toujours, quand, avant de le dire, j'ai une petite appréhension, c'est la contraception. Et c'est un truc qui a quand même changé pas mal de choses, qui a eu des conséquences politiques dans certains pays très importantes. Et je n'ai pas trouvé de texte de SF, je n'ai pas cherché très longtemps non plus.
Tu as joué des temps pour parler
là ? Ah ouais, ouais.
Et là aussi, il y a un peu d'autocensure aussi, le
sexe,
c'est quelque chose qu'on a
abordé là. Mais t'as raison de la nuit des temps, ouais. Ouais.
Ouais. Désolé.
Non, mais tant mieux. Mais néanmoins, c'est un parmi.
Quand est-ce qu'il a été écrit, la nuit des temps ?
Ah bah non, bah non, alors. Non, non.
Ah oui,
c'est après.
C'est bien, c'est bizarre.
Ah ouais. Donc ça, et alors ça, je pense que c'est. Comme tu dis, je pense qu'il y a deux effets. Il y a un effet tabou. Effectivement, on parlait de sexe hein, depuis. On a toujours parlé de sexe en fait. Mais pas les auteurs de SF. Les auteurs de SF, pas les vieux. Maintenant, on n'arrête pas, mais. Mais je pense qu'il y avait peu d'inclinaison à s'orienter vers ça. Et puis je pense que c'est aussi lié au fait qu'il y avait peu de femmes qui écrivaient de la SF. Souvent quand je parle de ça, tout le monde me parle de la servante écarlate, mais qu'en fait, pareil, bien postérieure à la contraception. Hein, donc elle, et bon, c'est une femme, je pense que c'est clé dans le fait qu'elle s'empare de cette question-là. Mais c'est tardif, c'est 86, je crois, là. Et donc pour moi c'est un des autres grands oubliés de, contrairement au clonage par exemple. Clonage on en a parlé, mais pas le contrôle des naissances, quoi, la contraception, le contrôle des naissances, qui pourtant est une mine, hein. On peut inventer des tas de scénarios de de science-fiction sociale, en fait, du type d'utilisation de la contraception pour des contrôles de population.
Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des éléments dans. Je ne sais pas franchement la contraception, mais qu'il n'y ait pas des éléments dans Anglo-Saxon.
Ouais, c'est possible.
J'ai des implications parmi tout ce que
contrôle les naissances, mais pas contraception. C'est pas. C'est. Alors que, précisément, en voulant faire le contrôle des naissances, en voulant raconter une histoire de contrôle des naissances, un écrivain de SF aurait dû inventer la contraception. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Dernière catégorie, parce que l'heure tourne, donc des trucs qui servent à rien. Et moi, ça me fascine pas mal. Je sais pas si vous avez entendu par exemple parler des supercordes dans la science. Voilà. Donc il y a des théoriciens aujourd'hui qui pensent que le monde n'est pas fait de points mais de petites cordes. Quand ils déroulent leurs équations, ils déduisent que forcément le monde a 10 ou 11 dimensions, ou peut-être 26, mais rien entre. Voilà. Et donc ils sont partis très loin. Ils sont partis très très loin du monde concret. Donc ça résonne un peu avec ce qu'on disait sur la mécanique quantique tout à l'heure. Hein. C'est pareil, c'est un truc. Et alors, eux, ils sont, pour moi, ils sont nulle part parce que il y a une des choses qu'il faut savoir là-dessus, c'est que c'est purement théorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve expérimentale que c'est ça. Et néanmoins, on en parle beaucoup. C'est un truc qui fait rêver tout le monde, enfin, tout le monde, je ne sais pas. Mais c'est un truc qui fait rêver les gens, enfin, qu'on trouve dans les médias. Il y a beaucoup d'argent qui est donné à des théoriciens pour bosser là-dessus. Alors que c'est, un, expérimentalement pas vérifié, et deux, on ne peut rien en faire. On peut toujours faire du même dropping, c'est-à-dire évidemment un auteur de SF peut pas marquer supercorde dans un bouquin en disant j'ai un moteur à supercorde, voilà. Mais il n'utilise pas la notion de supercorde pour développer vraiment une narration. Ouais.
Il y a un sens inverse, une observation qui n'a pas d'utilisation, c'est le fait qu'on connaisse 5% de l'univers.
Ouais. Alors ça, je pense que ça. Il y a des ça c'est utilisé un peu. Donc ça, on connaît 5% de l'univers. Ça c'est la matière noire et l'énergie noire. Là, quand on regarde le cosmos, le Big Bang comme je vous disais un peu au début, on constate que 95% de l'univers est fait d'une matière et d'une énergie qui n'est pas celle qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est pas les particules qui sont dans une table, c'est pas des protons, des neutrons, des électrons, mais c'est même pas non plus aucune particule élémentaire qu'on a mesuré. C'est pas le boson de Higgs, c'est pas toutes les particules, 17 en gros particules élémentaires. C'est aucune des particules élémentaires qu'on a mesurées, ça en est à peu près sûr. Donc il existe d'autres particules, d'autres choses dans l'univers, et on sait pas ce que c'est. Et ça, donc on appelle ça la matière noire, la matière sombre. Si on... Il y avait un article du Gorafi très sympa qui disait qu'il fallait pas dire matière noire parce que c'était discriminatoire. Et ça inspire des gens. Hein. Ça peut inspirer des. Par exemple, le cycle de BD de Bajram, Universal War, derrière, il utilise ça il utilise la matière noire comme un peu background derrière son intrigue. Et je suis sûr qu'on peut trouver sur l'énergie noire aussi. Donc ça, je pense que ça a c'est riche, narrativement, c'est riche. On peut faire des choses avec la matière noire.
Au CERN, les auteurs de SF, n'arrêtaient pas de poser des questions sur la matière noire.
Ouais.
C'était vraiment, ça reprenait. Mais est-ce qu'on pourrait, mais c'est quoi? Et je sais pas, on peut pas l'apprendre.
Et puis surtout, on sait pas ce que c'est.
C'est pas ce que c'est, on peut pas l'apprendre.
C'est pas encore ce que c'est.
Mais est-ce que. Ouais.
Forte chance, forte, grosse présomption de savoir qu'elle est là. Ouais. Elle fait tourner les galaxies en gros. C'est la première preuve de la matière noire, c'est ça. C'est quand on commence à bien comprendre de quoi est fait une galaxie, donc on sait combien elle pèse, on sait combien pèse un soleil, deux soleils, trois soleils, on mesure tout ça, donc on sait combien il y a de matière dans la galaxie, et on mesure sa rotation, et on se rend compte qu'elle tourne beaucoup plus vite que ce que permet la matière qui est à l'intérieur. Hein, si un soleil est plus gros, ça fait tourner les trucs plus vite autour de lui. Si il est plus petit, c'est moins vite. Et bien là, c'est exactement ça. On a une bonne idée de. C'est la première preuve de la matière noire, mais il y en a d'autres après à plus grandes échelles. On voit des galaxies tourner et juste elles ne peuvent pas tourner aussi vite étant donné ce qu'on comprend de ce qu'il y a à l'intérieur. Yes.
Tout à fait le même genre d'idée, mais c'est ouvert, est-ce que ce n'est pas une invention de mort en SF? Et alors,
c'est bon,
c'est comme un truc qui pourrait bien faire le complément ou ce qu'on peut mieux avec l'intérieur des
lignes. Dans la grande sorte de quoi l'humanité, le tout noir permet de passer. d'un univers à l'autre, ou une constante en différence.
Ouais.
Pour revenir à ce que vous disiez d'ailleurs sur les constantes universelles,
ouais,
qui sont bizarrement, ouais, bizarrement, collent tout bien.
Ouais.
Mais je ne sais pas ce qui l'a inventé, parce que c'était quand même écrit par un Américain, un astrophysicien dans les années 90, 80, 90. Ça fait déjà beaucoup de temps, mais je ne sais pas si tout le monde a l'invention.
Ouais.
Il y a eu une invention. Hein.
Je voudrais juste faire le trou de verre, scientifiquement, n'existe pas encore. On n'en a pas. C'est comme les supercorps. C'est comme les supercorps, on n'en a pas observé. Les trous noirs, oui. Maintenant, on sait, il y a des trous noirs supermassifs au centre. Il y a un trou noir supermassif pas loin. Vous sortez, vous prenez un jour. Et au centre de la galaxie, il y en a un. Et il y en a plein maintenant. Et puis, bon, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire des ondes gravitationnelles récemment. Là. On a vu une coalescence de trous noirs énorme, beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Donc ça, c'est... Le pendant qui serait le trou de verre, ça on n'a jamais observé, mais je vais creuser. C'est fort possible que ce soit une idée de SF avant d'être une idée, mais je ne sais pas pourquoi.
Je ne suis pas convaincu. Ce qui est peut-être pas scientifique.
Ouais. C'est deux citernes. Deux citernes.
Je ne sais pas. Non, c'est je sais que j'ai la et justement, il avait conçu ça comme une idée de science-fiction, du moins une aide conceptuelle, justement pour essayer de voir ce qu'on pousse, essayer de comprendre autrement et autre chose, et l'invention du trou de verre,
si tu retrouves le nom, ça je creuse. Bon, il est 7h, en principe c'est terminé.
Vous avez
une dernière question brûlante? On va boire une bière. Merci à vous.
Merci.